Europe 1, la France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. La France bouge, l'émission résolument positive. Alors un défi pas simple à relever, hein, bien sûr, des jours comme aujourd'hui. Mais nous allons tout de même tenter de mettre en avant, comme toujours, les entreprises, les initiatives, les conseils qui nous permettent une parenthèse positive. À mes côtés, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Carole Ferry et bonjour à tous. Confinement, épisode 2, comment les supermarchés vont s'adapter. Ils le promettent, il y a du stock, c'est vrai. La situation s'annonce plus difficile pour le non-alimentaire, le numérique peut-il permettre d'éviter le pire? Nous ferons le tour de toutes ces questions avec notre invité du jour, Jacques Cressel, c'est le président de la Fédération du commerce et de la distribution.
Dans cette édition spéciale, nous verrons comment une entreprise peut rebondir, se réinventer. Notre spécialiste Nathalie Carré de la CCI sera avec nous pour partager ses conseils, son expérience. Bref, vous accompagner.
Certains d'entre vous ont quand même peut-être pu profiter des vacances de la Toussaint. Vous y êtes peut-être là encore. Alors, quelles sont les régions qui en ont le plus bénéficié? Pour ceux qui sont encore en vacances, comment ça se passe? Comment se faire rembourser si vous voulez rentrer un petit peu plus vite? On va poser la question à la directrice du réseau des Gîtes de France également dans cette émission.
Et bien sûr, les trophées Europe 1, la France bouge. Chaque jour, un entrepreneur vient nous présenter son projet. Aujourd'hui, nous accueillons la cofondatrice de Mon Building, une application pour échanger entre salariés d'une entreprise, habitant d'un immeuble. Est-ce que cela vous semblera utile? Serez-vous convaincu? Réponse vers 13h45.
Et en fin d'émission demain au travail, nous appellerons la directrice de Workday. Lors du premier confinement, elle avait offert des heures de babysitting à ses salariés. Elle nous le dira, ce qu'elle a prévu cette fois-ci.
Bienvenue dans La France bouge, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Ça y est, hein, on sait ce qui nous attend. Un mois de confinement au moins, mais comme chaque jour dans La France bouge, nous allons tenter d'être positifs. Émission spéciale aujourd'hui pour rassurer sur ce qui va bien, conseiller sur ce qui peut permettre d'aller mieux. Bref, on va vous aider aujourd'hui à aborder ce nouveau confinement.
Bonjour Jacques Cressel.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de la Fédération du commerce et de la distribution. Bienvenue dans La France bouge sur Europe 1. Vous représentez donc la plupart, on va dire, des enseignes de la grande distribution et des commerces, beaucoup de commerces également non alimentaires. On va commencer par le positif. Vous pouvez nous confirmer que les supermarchés, les hypermarchés ont des stocks suffisants pour les semaines qui viennent?
Oui, je vous le confirme totalement. Et d'ailleurs, il n'y a aucune raison, je le dis à tous les consommateurs, à tous nos clients, de venir dans les magasins faire des provisions. Il n'y a pas de problème. On a constaté hier, c'est un peu plus calme ce matin, des hausses très fortes de consommation sur certains produits, le papier toilette, plus 100%, le beurre jusqu'à 60%, plus 30% sur les œufs. Très franchement, il y aura tous ces produits dans les semaines qui viennent. Le maître mot, c'est l'anticipation. On a anticipé sur tout ça. Tout ça est fait de manière extrêmement organisée. Nous avons fait le point à l'instant avec Bruno Le Maire et l'ensemble des enseignes. Il n'y a pas de difficulté ni du côté des transformateurs, des industriels, ni du côté de la distribution. Donc il faut vraiment rassurer tout le monde.
Quand vous dites on a anticipé à cette même place, lundi, il y avait le patron de Panzani, l'un des plus gros vendeurs de pâtes en France. Il nous avait dit nos commandes ont augmenté de 30% pour les pâtes de la part de la grande distribution. C'était vrai comme ça sur plein de produits. La grande distribution s'était organisée pour dire si jamais on doit partir à nouveau en confinement, il faut qu'on puisse faire face à la demande.
Nous avons appris naturellement, comme tout le monde, de ce qui s'est passé en mars. On a bien vu ce qui s'est passé dans les premiers jours. Et donc, on a anticipé les commandes sur les produits dont on sait que, d'une manière ou d'une autre, pour des raisons psychologiques sans doute intéressantes à étudier, les Français veulent absolument en acheter dès le départ. Donc, on a complètement anticipé tout cela, ce qui fait qu'il y a des stocks suffisants, des commandes. Et ce qu'a dit le président de Panzani, c'est exactement la réalité. On l'a fait, on pensait bien qu'il y allait malheureusement depuis quelques jours y avoir des mesures. On ne connaissait pas l'ampleur de ces mesures, mais on voyait bien qu'il fallait se préparer à tout.
Alors, vous l'avez dit, c'est compliqué hein, de comprendre ce qui déclenche finalement ce comportement. Donc, on n'est pas là pour juger. Mais enfin, il faut quand même que les gens se rendent compte que c'est souvent ça qui provoque la rupture de stock. Et alors, au printemps dernier, ça avait entraîné des manques de produits dans les magasins. Mais ça va beaucoup plus loin. Hein. Ça fait un effet boule de neige. Il y a des problèmes après de sacs de farine, de contenants pour les œufs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il a fallu réorganiser tout ça
Ce qui s'est passé la dernière fois, c'est qu'on s'est aperçu que souvent, le produit était là, mais que finalement, c'était l'accessoire du produit, si j'ose dire, qui manquait.
Le contenant.
Il manquait des sacs pour les farines, alors qu'il y avait de la farine. Pour les œufs, nous avions des œufs sans problème. Simplement, les œufs, ils sont avec des calibres. Ils sont avec des origines, des modes d'élevage, plein air, bio, etc. Et souvent, les boîtes ne correspondaient pas exactement à la production. Donc, on a été obligé de se réinventer.
Mais le patron de Panzani, pour le citer là encore, nous disait que, par exemple, ça manquait de blé. Il nous dit, nous, on a été à un moment qu'on n'avait jamais connu de notre histoire. 2 jours de stock dans nos ateliers, 4 jours seulement pour la grande distribution. Qu'est-ce qui fait que ça ne se reproduira pas ce coup-ci ?
Parce qu'on a anticipé et que effectivement, les stocks ont été refaits. Et je pense que les consommateurs eux-mêmes vont comprendre qu'il n'y a pas eu de problème la dernière fois. Donc, puisqu'il n'y a pas eu de problème la dernière fois, il n'y a pas de raison qu'il y en ait cette fois-ci, parce qu'on est encore plus organisé qu'on ne l'était. Donc, alors, c'est là où il faut rassurer tout le monde.
Justement, quelle leçon vous avez tirée de ce premier confinement ?
La leçon, c'est que d'abord, il faut avoir des protocoles dans les entreprises, dans les magasins, qui rassurent tout le monde. Ça, c'est essentiel et ça, c'est en place. Ça marche bien, il n'y a aucune difficulté de ce côté-là. Et puis deuxièmement, qu'il faut naturellement anticiper, innover le plus possible pour tout ceci. Ce qui s'est passé, par exemple, la dernière fois, pour prendre l'exemple des pâtes, c'est que quand il y a un moment, il y a des demandes fortes, eh bien, il peut se passer que tel type de pâte ne soit pas disponible, mais qu'il y en ait une autre à la place, de façon à ce qu'il y ait ce qu'il faut dans les rayons. Et de temps en temps, on peut effectivement renoncer à ses rigatoni et manger des farfelets à la place. Très franchement, ça n'est pas un drame absolu.
Là, ce qui va aussi tout changer, c'est que les usines vont tourner. Il ne va pas y avoir le questionnement du début du confinement de la dernière fois. On se demandait, est-ce que les usines tournent ? Est-ce que les exploitations agricoles vont pouvoir continuer ? Bruno Le Maire vous a confirmé ce matin que la chaîne alimentaire, d'une certaine manière, reste en fonctionnement, pas de rupture là dans les jours à venir. On continue à travailler dans les usines.
Il n'y a aucun problème de ce côté-là. C'était déjà le cas la première fois. Hein. Il faut bien voir que.
C'est vrai qu'au démarrage, sans mettre en place les protocoles sanitaires et tout, ça a mis un petit peu de temps.
Ça a tenu parce que l'ensemble de la chaîne alimentaire a tenu, des agriculteurs aux industriels jusqu'aux distributeurs. Et là, c'est la même chose. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais naturellement, on est très attentif. On est attentif à l'absentéisme dans nos magasins, à l'absentéisme dans les entrepôts, à l'absentéisme dans les industries. Pour le moment,
on nous dit que la vague est beaucoup plus forte. Voilà. Est-ce que vous avez de l'absentéisme important dans vos magasins ?
Non, aujourd'hui, les choses se passent bien. Il y a naturellement parfois des personnes absentes, mais il y a une grande différence par rapport au premier confinement. C'est le fait que les écoles vont fonctionner. Or, une grande partie des salariés qui étaient absents, c'était tout simplement parce qu'ils étaient obligés de garder leurs enfants. Vous savez que nous avons beaucoup de nos salariés qui sont jeunes, qui donc avaient des enfants. Aujourd'hui, les choses vont être différentes et de ce point de vue, ça nous rend beaucoup plus optimistes.
Jacques Ressel, directeur général de la Fédération du commerce et de la distribution, vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge.
La France bouge.
Emmanuel Dutheil.
La France bouge, émission spéciale confinement. Pas de ruée donc sur les rayons pour le moment. C'est ce que vous nous disiez, Jacques Ressel. Vous êtes notre invité aujourd'hui, notre fil rouge. Vous êtes le directeur général de la Fédération du commerce et de la distribution. Et alors, on a vu tout à l'heure qu'effectivement, vous êtes obligé un petit peu de vous réorganiser. Les producteurs sont obligés de se réorganiser très rapidement, un petit peu dans l'urgence. On avait vu lors du premier confinement qu'il y avait parfois aussi des problèmes de transport, que ça coûtait un petit peu plus cher. Est-ce que ça va avoir un impact sur les prix ?
Écoutez, on essaie de faire en sorte que c'est naturellement pas d'impact sur les prix. On est totalement conscient pour avoir une relation directe avec les consommateurs tous les jours des problèmes de pouvoir d'achat. Le problème du pouvoir d'achat aujourd'hui est gigantesque pour une très grande partie des Français. Donc il faut absolument faire en sorte qu'effectivement il n'y ait pas de difficultés de ce côté-là. Ce qui s'est passé en mars, c'est qu'effectivement, tout le monde a fait en sorte que les prix n'augmentent pas. Il y a eu simplement sur quelques produits emblématiques comme la fraise, par exemple, ou l'asperge, des augmentations qui étaient simplement dues au fait que nous avions pris l'engagement de ne vendre que des produits français qui sont naturellement d'un coût très supérieur au départ. même si les marges ont été limitées au maximum.
Vous allez continuer justement à vendre français. Il y avait ce point-là et puis il y avait un autre point où par exemple on avait vu que les Français achetaient beaucoup moins de produits frais, notamment de fromages frais. Il y avait eu beaucoup de problèmes sur les fromages AOC. Là aussi, parmi les leçons que vous avez tirées du confinement, vous allez travailler sur ces points-là ?
Nous avons travaillé ces jours-ci avec Julien de Normandie, le nouveau ministre de l'Agriculture, à une charte des produits frais qui va être signée et rendue publique dans les jours qui viennent.
Et qui dit quoi ?
Pour justement dire que l'ensemble des enseignes de la grande distribution vont s'engager à faire en sorte que le maximum de produits frais soit mis en avant de façon à ce que les Français achètent des produits frais au maximum.
Donc ça veut dire, parce qu'effectivement, vous aviez eu pas mal d'initiatives pendant le premier confinement sur le soutien aux agriculteurs. Là, on est dans la même démarche. Il y avait d'autres initiatives sur la priorité pour les soignants dans les magasins, le portage à domicile pour les personnes âgées, tout ça.
Tout ceci est lancé. Des enseignes, dès hier, ont annoncé un certain nombre d'initiatives dans ce domaine. Elles seront naturellement confirmées et même amplifiées
Des
de
exemples.
Ce point de vue. Par exemple, une enseigne hier a annoncé que pour les soignants qui commençaient tôt, ils auraient la possibilité qu'on leur offre un petit déjeuner. Il y a toute une série d'éléments de ce type-là, de façon à faire en sorte qu'on aide au maximum l'ensemble de ceux qui sont aujourd'hui au front. Nous sommes la deuxième ligne. Il est normal que la première ligne soit aidée par la deuxième ligne. Et en même temps, on voit bien que les Français, je pense, ont été globalement très reconnaissants de voir qu'aucun de nos 30 000 magasins n'a fermé en mars. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que ça continue à être de cette façon-là. Nous sommes au service, nous sommes une forme de service public aujourd'hui. Et nous avons bien l'intention de continuer à l'être.
Alors à juste titre, vous parlez de la deuxième ligne, on avait enfin valorisé tous ces jobs caissières, tous ces gens qui travaillent dans les supermarchés, les hypermarchés. Ils avaient eu une petite prime pour la plupart. Là, on peut imaginer qu'il va falloir donner un petit coup de pouce quand même encore.
Écoutez, la petite prime était une prime de 1 000 euros, ce qui représentait quelque chose de tout à fait important. Elle a été versée à la très grande majorité de nos salariés. Et donc, je pense qu'un effort significatif a été fait pendant cette
période. Et il faut le renouveler, cet effort, d'après vous?
C'est naturellement un sujet qui relève de chaque enseigne.
Mais vous, à titre personnel, vous y êtes favorable?
On n'y est pas du tout. On n'est pas du tout dans ce cas-là aujourd'hui.
Ah, pas du tout dans l'idée d'en remettre une sur la table.
Ça n'est pas aujourd'hui un sujet de discussion.
Est-ce que globalement, le Covid a changé nos habitudes de consommation? Est-ce qu'on est beaucoup plus sur le drive, sur les commandes en ligne, sur...
Oui, de manière très impressionnante. C'est-à-dire qu'on constate depuis la crise, après le confinement, le premier confinement, la poursuite des achats en drive et en livraison de manière impressionnante, puisqu'on était aux environs de 30 ou 35% d'augmentation chaque semaine. Alors même que,
est-ce
au contraire,
que ça a continué derrière?
Alors, ça va continuer. Hein. Il est clair que cette crise est le révélateur de ce qui s'est passé pour le non-alimentaire, c'est-à-dire la montée en puissance du e-commerce, des livraisons. D'ailleurs, tout ce qui va être click and collect et de la possibilité de récupérer les produits va être très largement encouragé désormais dans le cadre...
Sur le drive, on voit que c'est totalement reparti. Il n'y a plus de créneaux là en ce moment. Dans les 2-3 jours à venir, il n'y a plus de créneaux
drive. Bien sûr, les livraisons, c'est pareil. Je pense qu'il y a vraiment un changement majeur qui s'est produit.
Alors à la FCD, vous n'avez pas que des commerces alimentaires, hein. Vous êtes également le porte-parole de tout un secteur non alimentaire. Et là, eh bien, vous êtes quand même assez remonté, vous êtes inquiet de la fermeture de ces secteurs.
Là, on est très inquiet parce qu'on s'est beaucoup battu ces dernières 48 heures pour essayer d'obtenir que les commerces non alimentaires, curieusement qualifiés de non essentiels, soit ouvert et que les Français aient la possibilité d'y aller, même de manière limitée, 1 ou 2 heures par jour.
Mais
comme
il y a
on fait pour l'alimentaire.
Formel de l'Élysée là-dessus.
Malheureusement, le président en a décidé autrement. Il y a une lueur d'espoir. C'est quand même que le président hier a très clairement dit que la situation sur les commerces serait revue dans les 15 jours. Donc notre première demande, elle est simple, c'est de faire en sorte que d'ici 15 jours, il y ait la possibilité d'ouvrir, pour une raison très simple. On est juste avant Noël, c'est le moment où se fait le chiffre d'affaires de l'année pour beaucoup. Puis il faut quand même se souvenir que c'est la troisième année de suite qu'on est dans une situation terrible avec les gilets jaunes, les manifestations l'année dernière. Beaucoup de commerces risquent de ne pas s'en remettre.
Qu'est-ce qui peut changer la donne en 15 jours là? Comment vous pouvez convaincre en 15 jours?
convaincre
qu'on puisse rouvrir.
Les autorités. Hein,
les autorités.
Qu'il faut effectivement rouvrir.
Je pense qu'il faut bien voir que ça n'est pas dans les commerces qu'il y a de la contamination. Ça n'est pas à cette occasion-là. Il n'y a aucun cluster.
Ça, vous avez déjà eu l'occasion de leur dire.
Aucun cluster dans les commerces. La décision qui a été prise est de limiter au maximum
l'idée,
les déplacements.
L'idée, c'est que les gens ne se déplacent pas. Donc.
Je pense qu'on doit pouvoir arriver à bien démontrer que sur un certain nombre de cas limités de ce type-là, sur les commerces non alimentaires, on doit avoir la possibilité de les rouvrir dans des conditions sanitaires les meilleures possibles. Je pense que très franchement, c'est quelque chose qui...
Merci beaucoup Jacques Cressel, directeur général de la Fédération du commerce et de la distribution. Vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Duteil.
Émission aujourd'hui un peu spéciale de la France bouge, hein, déjà pour faire le point sur la ruée ou pas dans les supermarchés. Ce qu'on a entendu depuis le début de cette émission, c'est que oui, bah une fois de plus, vous achetez plus de pâtes, vous achetez plus de papier toilette, mais il y a du stock, ça va tenir et on est rassuré puisqu'on a, semble-t-il, collectivement retenu les leçons du premier confinement. Beaucoup d'inquiétudes également, bien évidemment, pour ceux qui doivent aujourd'hui fermer leur commerce, tout le non-alimentaire. Quelle réponse vous apportez? C'est ça aussi, la France bouge, être à vos côtés.
Et donc, nous sommes jusqu'à 14h avec Jacques Cressel, le directeur général de la Fédération du commerce et de la distribution, et avec Nathalie Carré de la CCI France, la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie.
Bonjour tout le monde, vous allez bien?
Oui, très bien. Alors on vous connaît bien dans la France bouge puisque chaque jour vous conseillez nos entrepreneurs sur leurs nouveaux projets. Nous avions envie de vous avoir avec nous aujourd'hui pour conseiller, accompagner tous les entrepreneurs, tous ceux qui s'inquiètent aujourd'hui. On sait que beaucoup ont souffert pendant le premier confinement. Certains n'ont même pas eu le temps de relever la tête. Et puis là, même si Emmanuel Macron assure qu'on va continuer à travailler, eh bien, il y a forcément beaucoup d'inquiétudes. Alors, ce que je voudrais vous demander d'abord, Nathalie, c'est selon vous, quelle est la première réaction à avoir dans cette situation?
Alors, il y en a un peu plus qu'une, mais la première, c'est on respire. Il va falloir de la force et de la concentration. Donc, on respire et on s'aère les neurones, on va marcher un peu. Deuxièmement, on objective. Vous l'avez dit tout à l'heure dans l'émission, oui, la situation, elle est incertaine et compliquée, mais on a acquis de l'expérience, et tous les chefs d'entreprise ont acquis de nouvelles compétences pendant la période de mars-avril. Donc, le contexte est différent. Vous êtes plus armés, mieux armés. Donc, il faut faire le point sur tout ce que vous savez faire aujourd'hui. Il y en a plein qui ont testé le drive, la vente en ligne, etc. Il faut capitaliser sur ces succès. Et puis, probablement, vous verrez que la situation est peut-être plus positive que ce qu'on peut penser.
Mieux armé, Nathalie, mais il y en a quand même aussi qui dépriment. Enfin, tout le monde ne se sent pas plus armé, là. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? On me disait récemment, les patrons se cachent pour mourir. Ils ont du mal à aller chercher de l'aide. Vous, vous dites, c'est possible, vers qui on peut se tourner quand on est en difficulté?
Alors, il faut surtout aller chercher de l'aide, parce qu'effectivement, c'est toujours plus facile à plusieurs. D'abord, il y a évidemment votre chambre de commerce et d'industrie. On a déjà anticipé, on a réouvert toutes nos cellules téléphoniques. Donc, il y a 1500, 2000 conseillers qui sont sur le terrain, qui répondent à vos appels téléphoniques.
Donc là, on trouve le numéro où, Nathalie, pour ceux que ça intéresse?
CCI.fr, je pense que si la page n'est pas encore remise en ligne, elle va l'être dans les heures à venir, avec tous les numéros de téléphone de toutes les cellules qui sont sur les terrains locaux. Sinon, le site de l'accueil de la CCI, et on vous passera les bonnes personnes. En revanche, pour l'instant, les décrets sont pas publiés. Il nous manque encore des infos. Hein, mais en tout cas, y a votre chambre de commerce, il y a votre expert comptable. Il y a surtout pour les commerçants, vos associations de commerçants. Il y a aussi tous les camarades commerçants. Parce que peut-être que vous allez trouver des synergies. Vous avez fait plein de trucs en mars-avril. Étudiez ce qui a fonctionné, voyez comment vous pouvez mutualiser avec les commerçants de votre rue, par exemple, pour mutualiser les livraisons, pour mutualiser le click and collect, etc. Donc surtout, effectivement, parler avec les autres.
Et c'est vrai qu'il y a cette fois un élément de réassurance, c'est-à-dire que s'il y a bien quelque chose qui a bien fonctionné en France, ce sont notamment les aides pour les entreprises. Il n'y a pas eu trop de trous dans la raquette, et à chaque fois qu'il y avait des trous dans la raquette, ça a quand même été, je pense, on peut le reconnaître, plutôt bien refait. Est-ce que ça, Nathalie, c'est un élément qui est rassurant, où il faut quand même beaucoup s'inquiéter parce que certains ont tellement serré pour pouvoir passer que là, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase?
Alors oui, l'avantage, c'est que non seulement vous, en tant que patron, les patrons ont appris, les collaborateurs ont appris, mais le gouvernement aussi a appris. Donc il y a eu aussi anticipation. Et donc toutes les petites erreurs qui ont pu être faites sur mars-avril avec des décrets qui n'étaient pas clairs ou des personnes qui avaient été un peu exclues, vous l'avez dit, les trous dans la raquette ont été corrigés assez vite. Là, du coup, il n'y en aura pas d'entrée de jeu. Puisque,
Notamment, pour les indépendants, on a entendu qu'un plan va arriver. Donc,
Tout à fait. Donc tout ça, on a appris. Et puis, on va aller plus vite. Les systèmes existent, les formulaires existent. Donc, on va réactiver, en fait, quelque chose qui existe en améliorant. Donc, effectivement, tout va aller beaucoup plus vite. Dans les jours à venir, on saura exactement quelle aide est activable, pour qui et comment. Donc, je dis pas que c'est simple, parce qu'effectivement, la trésorerie est quand même asséchée. Encore que beaucoup n'ont pas consommé tout le PGE, tout le prêt garanti par l'État, donc le prêt de trésorerie qu'ils avaient eu. Donc, c'est le moment d'optimiser aussi ce qui peut rester pour améliorer ce qui avait été commencé et reprendre effectivement la vente en ligne, etc., etc.
Bien sûr. En tout cas, vous restez avec nous, Nathalie. On va vous retrouver dans un instant, comme chaque jour, pour nous donner les forces et les faiblesses du jeune ou de la jeune entrepreneur qui, chaque jour, vient essayer tous nous convaincre de la pertinence de son projet industriel. Et là, dans les jours à venir, on va vous retrouver chaque jour dans cette France Bouge, comme ça, pour nous apporter vos conseils, pour apporter les réponses à tous ceux qui s'inquiètent. Plus que jamais, cette France Bouge sera à vos côté dans les semaines à venir.
Jacques Ressel, directeur général de la Fédération du commerce et de la distribution. Vous aussi, vous avez eu beaucoup de gens qui se réorganisent. Là, vous pouvez avoir des conseils à donner sur... Vous avez vu des entreprises se bouger de manière très réactive?
Oui, c'est formidable de voir ce qui s'est passé en mars. Il y a une évolution d'abord vers un nouveau modèle qu'on connaissait, qui est le modèle dit omnicanal, dans lequel tous les commerces sont à la fois en ligne et en physique. Ça s'est développé de manière absolument considérable. Il y a des enseignes qui ont doublé, triplé leur chiffre d'affaires dans ce domaine. Il y en a qui n'avaient pas de système dans lequel vous pouvez récupérer des produits à la porte des magasins. Là où d'habitude ils faisaient ce genre de projet en 6 mois, ils l'ont fait en 2 semaines. Tout ça s'est fait de manière extraordinaire. Il y a qu'à voir les restaurateurs qui se sont développés. Et ça, il faut l'encourager. Et moi, je pense qu'une des leçons qu'on doit tirer, c'est que le plan de relance avait quelques crédits sur ce sujet, mais pas grand-chose. Aujourd'hui, le commerce est très clairement la victime essentielle de ce nouveau confinement. Il faut faire en sorte qu'il y ait un plan massif pour la digitalisation du commerce. C'est clé pour la suite.
Effectivement, ça permet d'accélérer. Alors, parmi les secteurs qui sont en train de se réinventer en temps réel, il y a bien évidemment le secteur du tourisme. Solange Escure, merci d'être avec nous.
Merci.
Vous êtes la directrice de la Fédération nationale des gîtes de France. Vous avez des gens en ce moment même dans vos gîtes. Comment ça se passe tout simplement en ce moment, là, au moment où on se parle?
Alors, au moment où on se parle, donc il y a effectivement des clients dans nos hébergements qui sont là pour la plupart jusqu'à samedi ou dimanche. Donc, on a bien entendu le président, ils pourront rentrer chez eux samedi ou dimanche et pas dès ce soir. Donc, il y a par contre beaucoup d'appels de clients pour les 4 semaines à venir, pour la période qui court jusqu'au 1er décembre.
Et là, donc, beaucoup d'annulations.
Annulation. C'est vous qui leur dites, c'est facile d'annuler, il y a des remboursements, ça se fait très facilement.
Alors c'est facile d'annuler puisque de toute façon il y a interdiction de se déplacer sur l'ensemble du territoire pour des séjours touristiques. Donc nous contactons les clients effectivement pour leur proposer de reporter leur séjour ou d'obtenir un remboursement du séjour bien sûr.
Par contre, vous avez pu sauver un petit peu quand même les vacances de la Toussaint. Vous avez eu beaucoup de réservations. Les gens sont effectivement allés au vert.
Les gens se sont mis au vert pour les vacances de la Toussaint, oui. On a un bon taux d'occupation sur ces 2 semaines, qui ne compense pas, bien évidemment, la perte sur l'année. Il y a eu beaucoup de reports aussi de vacances de printemps sur les vacances de la Toussaint. Mais il y a quand même un bémol sur certains départements, notamment par exemple la Corse ou les territoires d'outre-mer. Donc il n'y a pas un taux d'occupation satisfaisant partout.
Lors du premier confinement, on avait vu, semble-t-il, un phénomène assez massif, notamment de Franciliens qui avaient quitté leur domicile pour aller s'installer à la campagne. Alors c'est peut-être encore un petit peu tôt, mais là, est-ce que vous avez eu des appels de location de longue durée pour le mois de décembre de gens qui voulaient à nouveau se mettre au vert?
Alors, pas encore. Là, on est vraiment sur l'annulation des 4 semaines. Il y a quelques demandes à la marge, mais non, ce n'est pas une ruée pour aller se mettre au vert.
Mais est-ce que vous en aviez quand même qui avaient réservé lors du premier confinement? Des gens que vous disiez, moi, je réserve pour un mois.
Tout à fait. On a des clients, par exemple, qui étaient là le 16 mars et qui ont prolongé leur séjour parfois jusqu'à début juin.
Mais là, comme il y a école, évidemment, c'est moins facile de,
c'est différent.
De partir.
Comment on prévoit l'avenir ? Parce qu'on parle dans cette France Bouge de secteurs qui se réinventent, qui doivent perpétuellement s'adapter. Là, on est sur au minimum 4 semaines de confinement. Selon les informations d'Europe 1, il y a même des plans sur la table qui, semble-t-il, pourraient être jusqu'à 8 semaines de confinement. Tout cela, bien évidemment, reste à confirmer. On travaille au jour le jour dans un secteur du tourisme comme le vôtre ?
C'est clair qu'on n'a plus aucune visibilité. Hein. Les réservations qui se faisaient d'une année sur l'autre, c'est terminé. On est sur du séjour de dernière minute, puisque le client va attendre de savoir dans quel contexte, effectivement, il va pouvoir se déplacer. Donc oui, beaucoup de dernière minute, plus du tout de visibilité. Mais on se dit aussi qu'on va partir en France encore pendant quelques mois, voire même plus. Donc des séjours qui vont se dérouler sur l'ensemble du territoire français.
On parle beaucoup en ce moment des vacances de Noël. Est-ce qu'on va pouvoir sauver Noël ou pas ? Vous aviez quand même des réservations, puisque les gens savent qu'on peut annuler. Vous aviez des réservations. Est-ce que là, elles s'annulent déjà ou est-ce que les gens les conservent ?
Alors, pour le moment, on a quelques appels concernant les vacances de Noël. Il y avait des séjours qui étaient déjà réservés. Forcément, là, on est sur un arrêt des réservations pour les vacances de Noël. Mais dès qu'on aura de nouvelles informations, les clients réserveront parce qu'ils auront besoin de partir à nouveau.
Alors nous, on est résolument positif avec Carole au sein de cette émission.
On essaye.
Allez, faites-nous rêver. Le ski, vous avez déjà quelques réservations. Si on regarde un petit peu pour la suite.
Bien sûr, on a déjà des réservations pour les vacances de février puisque c'est une période qui se réserve très en amont. Donc, il y a des réservations pour février, il y a des réservations pour le printemps, il y a aussi déjà des réservations pour l'été.
Ah oui, donc ce qu'on entend, c'est que les gens avaient et sont quand même en train de préparer la suite en se disant,
bah, au pire,
on annulera, on verra bien, mais au moins, on essaye de préparer la suite.
Oui.
C'est ce que vous voyez chez vous ?
Ah oui, tout à fait, puisque nous, la saison 2021, elle est ouverte depuis plusieurs mois. Et donc, il y a des séjours, on a du chiffre d'affaires déjà pour 2021.
Ça permet au moins de rêver et de se projeter.
Tout à fait.
Merci Solange Escure, directrice de la Fédération nationale des gîtes de France.
Merci à vous.
Jacques Cressel, directeur général de la Fédération du commerce et de la distribution. Vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Carole Ferry, Emmanuel Duteil.
Et c'est parti pour les trophées Europe 1, la France bouge. Ils, elles osent, ils, elles se lancent. On les écoute chaque jour pitcher devant l'œil attentif et toujours très exigeant de notre patron du jour. Aujourd'hui, c'est Jacques Cressel, le directeur général de la Fédération du commerce et de la distribution.
Bonjour Eliane Lugassi. Vous êtes la cofondatrice de l'application Mon Building. Alors, c'est une application qui permet de communiquer entre les habitants d'un immeuble pour les salariés d'une entreprise. Enfin, c'est vous qui allez nous raconter tout ça, bien entendu. Vous connaissez la règle, vous avez une minute pour nous convaincre. C'est à vous.
Bonjour à tous. Alors effectivement, je m'appelle Eliane, je suis la cofondatrice de Mon Building. Mon Building, c'est quoi ? Mon Building, c'est une application pour améliorer le bien-être du collaborateur sur son lieu de vie et son lieu de travail. Et concrètement, l'application va permettre trois choses. La première, elle va permettre de fluidifier la circulation de l'information au sein de l'immeuble avec un module d'événements, de gestion des incidents, de contact d'urgence. La deuxième chose, c'est que l'application va permettre de favoriser la création d'une communauté dans l'immeuble. Alors effectivement, un trombinoscope, un messenger interne pour interagir avec l'accueil, la maintenance ou encore d'autres occupants. Et enfin, l'application va permettre de regrouper l'ensemble des services proposés au sein de l'immeuble avec, par exemple, la réservation d'une salle de réunion, de son desk si on est en flex office, d'avoir accès avec un badge dématérialisé, donc d'ouvrir les portes avec son téléphone, d'avoir accès à la conciergerie, la salle de sport, etc. Donc aujourd'hui, on est déployé sur un peu plus de 250 immeubles pour des immeubles de bureaux, comme des espaces de coworking, comme des résidences étudiantes / co-living. Et on compte parmi nos clients Covivio, BNP, Dior. Voilà.
On est obligé de s'arrêter là, sur le dos des clients. Bravo en tout cas pour ce pitch, Eliane Lugassi.
Alors, chaque jour, notre experte Nathalie Carré épluche et analyse les dossiers du jour. Aujourd'hui, Nathalie, vous êtes avec nous tout au long de cette émission spéciale. Quelles sont, selon vous, les forces et les faiblesses de Mon Building ?
Alors, bonjour à tous. Deux points positifs pour Mon Building. D'abord, le domaine de l'immobilier est en pleine mutation. Il y a des nouveaux modèles qui se développent. Donc, vous êtes sur un marché porteur. Et puis, le plus important, c'est que vous y êtes au bon moment. Deuxièmement, votre site internet est très clair. Vous proposez des cas clients qui sont un vrai plus parce que ça aide à comprendre comment ça marche et à voir les différentes possibilités pour utiliser votre offre. Moi, je mettrais un point amélioré pour aller plus loin, en tout cas dans le développement d'entreprise. Votre solution se heurte à une réalité qui est la fracture numérique. Si évidemment dans les espaces de coworking à la mode ou dans les grandes entreprises tous les occupants sont hyper digitalisés, c'est pas tout à fait pareil partout et notamment dans le résidentiel où pourtant le besoin est criant. Peut-être que vous pouvez justement pour attaquer cette cible, en tout cas vous en parlez sur votre site internet du résidentiel, à proposer de former les résidents au numérique et à ses avantages ou avoir un plan B, par exemple un appel téléphonique ou via un SMS qui se transmettrait ensuite sur l'appli pour les personnes qui ne sont pas équipées de smartphone. Parce que ça serait vraiment dommage que l'outil bloque les échanges et la circulation d'informations entre les résidents.
Eliane, vous répondez quoi à Nathalie ?
Alors, je réponds que c'est vrai. Je réponds qu'on n'est pas uniquement une application mobile, mais on a aussi développé un site internet pour effectivement ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec le smartphone et qu'ils aient au moins peut-être un écran plus grand et peut-être plus facile d'accès. Et ensuite, c'est un très bon point aussi parce qu'il me permet de développer. On est effectivement un éditeur de logiciels, mais en fait, toute une partie de l'équipe chez nous aujourd'hui, on forme, on va dans les immeubles et en fait, on explique le pourquoi du comment. Et derrière, en fait, on essaye de former des ambassadeurs qui seront de nos relais locaux pour qu'ensuite, former d'autres personnes si nécessaire.
Moi,
donc, c'est un peu un exercice.
Oui. J'avais une question parce que vous ne l'abordez pas du tout. Combien ça coûte ? Combien vous vous payez ? Comment vous vous payez et tout ?
Le modèle économique ?
Oui, alors, il est de deux manières. La première, c'est que vous avez un coût de setup, de paramétrage de l'application parce qu'on est aussi en marque blanche. Donc typiquement, la Tour Pacifique, ça s'appelle l'appli Pacifique, on n'est pas visible. Et ensuite, vous avez un coût de licence de logiciel. Et ça, ça dépend du nombre de mètres carrés ou alors du nombre de logements.
Jacques Cressel, président de la Fédération du commerce et de la distribution, vous en pensez quoi ? Vous auriez un petit conseil à lui donner ?
Non, je trouve ça formidable. Moi, je suis toujours frappé de voir à quel point il y a un nombre d'idées et que les idées viennent effectivement de plein de start-up. Nous, on a ça dans le domaine de la nutrition, on a ça dans le domaine de l'économie circulaire, tout ce qui tourne autour de l'environnement, comment faire en sorte d'économiser le plastique, tous ces éléments-là. On travaille avec beaucoup de jeunes pousses de cette façon-là, parce que c'est souvent les jeunes pousses, vous en êtes une superbe représentante, qui donnent ces idées, qui renouvellent les choses. Et je trouve que tout ce qui tourne autour de la convivialité est effectivement quelque chose particulièrement important, notamment dans cette période.
Justement, Eliane, est-ce qu'avec le confinement, avec la crise du Covid, il y a aussi une partie beaucoup plus conviviale qui arrive, ou d'entraide même à aider à faire les courses ? Vous êtes présent, vous le disiez, dans les immeubles. Est-ce que ça entre en jeu ? Est-ce que vous avez imaginé ce genre de développement ?
Effectivement. Alors, nous, on est la majorité du temps présents sur des immeubles tertiaires. Et ce dont on se rend compte, c'est que si on va sur son lieu de travail, c'est pour effectivement avoir des échanges, parce que c'est le lieu de diffusion de la culture de l'entreprise. Et donc, si je viens sur mon lieu de travail, c'est pas pour rester enfermé dans mon bureau et pas échanger avec les autres. Donc là aussi, en fait, l'immobilier va énormément évoluer avec plus d'espaces communs. Il va falloir régir ces espaces communs, d'où l'idée d'avoir un outil. Et ensuite, sur le résidentiel plus classique, effectivement, et on l'a vu, hein, quand on est isolé chez soi, l'appli au moins permet d'avoir des échanges sans avoir la possibilité d'avoir des échanges physiques.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eliane Lugassi. Vous êtes donc la cofondatrice de Mon Building.
Et si vous aussi, vous avez un projet, si vous avez envie d'être challengé par notre patronne ou notre patron du jour, eh bien, c'est très simple. Vous pouvez envoyer votre candidature sur notre boîte mail e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez peut-être comme ça la chance de faire partie de nos candidates ou candidats en route pour les trophées Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Carole Ferry. Emmanuel Duteil.
Ça passe chaque jour trop vite. La France bouge. Dernière partie de votre émission Demain au travail. Et nous sommes toujours avec Jacques Cressel, le directeur général de la Fédération du commerce et de la distribution.
Et avec Sabine Nagège. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice stratégie de Workday. C'est une entreprise spécialisée dans la gestion financière et la gestion des ressources humaines. Alors, lors du premier confinement, eh bien, vous avez proposé toute une série de mesures pour faciliter le quotidien de vos salariés. 70 euros par jour de babysitter, par exemple, pendant 20 jours. Une prime pour se payer de quoi travailler dans de bonnes conditions à la maison. Il y avait encore d'autres choses, on va peut-être en parler. Mais déjà, qu'est-ce que vous prévoyez là pour cette nouvelle période ?
Écoute, comme vous tous, on vient de prendre connaissance des nouvelles mesures. Ce qu'on prévoit dans un premier temps, c'est de continuer tous les dispositifs, évidemment, qu'on a mis en place pour nos collaborateurs, pour leur permettre de rester chez eux en sécurité et aussi en bonne santé.
Qu'est-ce que vous avez tiré comme bilan de cette première expérience autour du confinement ? Parce que tout ça avait dû être décidé dans une période totalement exceptionnelle et j'imagine en quelques jours.
Tout à fait. Alors, on avait déjà un certain nombre de dispositifs en place. Hein. Le dispositif de garde, il existait. On l'a étendu à 20 jours au lieu de 10. On a aussi remis les compteurs à zéro en septembre à ce niveau-là. Ce qu'on a fait, c'est vraiment déjà écouter nos collaborateurs, comprendre ce qui pouvait les stresser, ce dont ils avaient besoin pour pouvoir leur apporter, encore une fois, le meilleur accompagnement pendant la période de confinement.
Vous proposez aussi de s'adapter aux horaires en fonction de ceux du conjoint. Alors, c'est pour s'occuper des enfants. Là, on sait bien, il y aura école, etc. Mais enfin, ça peut quand même servir avec le travail, le télétravail. Vous allez mettre ça en place? Vous le faites un petit peu toute l'année?
Ah oui, d'autant plus maintenant, mais tout à fait. On prévoit de la flexibilité pour nos collaborateurs, pour qu'ils adaptent leurs horaires à ce qui convient à leur rythme. Il est important, évidemment, pour eux de pouvoir avoir des pauses. On sait que quand on travaille à la maison, notamment, la limite entre travail et vie privée, elle est de plus en plus faible. Et donc, il est important de pouvoir organiser ces moments qui sont des moments de vie familiale, de vie privée. Et donc, s'il est nécessaire de rendre des horaires plus flexibles, eh bien, on le propose aux collaborateurs.
Je rappelle, hein, vous êtes une entreprise spécialisée dans la gestion financière, les ressources humaines. C'est peut-être plus simple pour vous, on peut travailler plus facilement en télétravail, on peut prévoir tout ça, ou vous pensez que ce que vous mettez en place est adaptable chez tout le monde?
Alors évidemment, c'est plus facile pour certaines entreprises en télétravail, mais par exemple, ce dont on parlait, c'est-à-dire les remboursements de garde d'enfants ou les remboursements de personnes qui s'occupent d'une personne âgée, d'un parent âgé, ça peut tout à fait être mis en place par d'autres entreprises.
Jacques Ressel, vous êtes le directeur général donc de la Fédération du commerce et de la distribution. Est-ce que vous pensez aussi que pour tout votre personnel, on le voit, hein, à quel point il est utile en ce moment, comme il l'a été lors du premier confinement, est-ce qu'il y a des idées comme ça sur la table pour les aider à gérer leur quotidien?
Il y a beaucoup de choses qui existent au niveau de chaque entreprise. Nous, notre priorité absolue, ça a été d'assurer leur sécurité. La sécurité,
oui, le plexiglas
de nos salariés
que vous avez mis,
et la sécurité des clients. Ça a été ça l'essentiel. Mais dans chaque entreprise, ça n'est pas une politique générale. Il y a toute une série d'initiatives. Il faut bien voir que nous sommes un secteur exemplaire en matière sociale, dans lequel la mobilité sociale est extrêmement élevée, par exemple. 40% de nos patrons de magasins ont commencé à la base. Mmh. Donc, nous avons une habitude des relations sociales qui est extrêmement développée.
Merci Sabine Agej, vous êtes donc la directrice stratégie de Workday.
Et c'est déjà la fin de votre émission. Merci à notre témoin du jour, Jacques Ressel, le directeur général de la Fédération du commerce et de la distribution.
On se retrouve demain dès 13h pour une nouvelle Le France Bouge. Le sujet, Emmanuel.
Alors on va prendre déjà quand même un petit peu de repos, on va se laisser le week-end et on se retrouvera en effet dès lundi. On sera notamment avec Elisabeth Assaya. Bah non, qu'est-ce que je dis,
mais
moi,
oui, enfin,
mais Carole, je veux déjà partir en week-end.
Mais
qu'est-ce
pas.
Qui se passe?
Ça, c'est l'effet confinement.
C'est parce que la semaine dernière, à la même heure, on a fait une émission sur la semaine de 4 jours. Je voulais déjà partir, les semaines sont trop longues. C'est le confinement qui nous fait ça. Bon, je vous garde et on parle vente aux enchères.
Dans un instant, le flash sud de Christophe Ondelat.
Europe 1.